Chuchotement.
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 Le podcast qui amplifie les voix qu'on n'entend pas.
Est-ce que vous avez une ou plusieurs questions qu'on vous a pas posées auxquelles vous voulez quand même répondre ?
Je vois pourquoi vous posez, parce que vous êtes déjà plus évolué que nous.
Oh. Ça c'est vrai. Moi où j'ai le plus évolué, je suis partie en grosse maison travailler. Monsieur était chirurgien, sa femme était médecin. Ils m'ont beaucoup évolué, beaucoup aidé. Ils étaient formidables. Ils m'ont beaucoup expliqué beaucoup de choses et ça m'a beaucoup fait avancer. Je leur en ai un merci. On sortait de notre petit coin.
C'est quoi la meilleure évolution que vous ayez connue, mesdames ?
Ah bah déjà, la machine à laver le linge. Avant, on avait une table frottée avec la brosse. Et Madame Charbonnet, la machine à laver le linge, ça a été super.
Oui.
Ouais, ouais. Ah oui.
La machine à écrire, elle n'était pas en panne.
La machine à laver qu'on traînait d'un côté et de l'autre. Il y a eu, pendant un temps, une machine à laver qu'on louait. J'en ai fait une grosse essile. Puis la machine a s'en allé chez l'autre.
Ah oui, ça existait. Mais
partager la machine
à écrire
avec ses
collègues. La machine était à tout le monde.
Heureusement que ça a évolué.
Ça avait évolué, ça.
Les gens ont évolué aussi.
Il y a quoi d'autre ? En autre évolution qui était bien, bah, Madame Charbonnel, qui vous a allégé le quotidien un peu.
Ah oui, le frigo après.
Comment son frigo?
On mettait au frais, ou qu'on pouvait.
Dans l'été.
Dans le temps, on mettait ça dans un panier et on descendait dans ça
le puits,
dans.
C'est ce que je voulais dire, d'accord.
Dans le puits.
Dans le puits, dans un panier.
Ça a de l'eau, et ben, c'était toujours frais.
Mais c'était l'époque, on n'en pensait rien. On ne trouvait pas ça normal, quoi.
Oui. L'arrivée des toilettes, vous êtes pour dire, c'est quand même vachement pratique.
Ah oui, parce qu'on a été longtemps en grand air. Ah, carrément. Et après, mon père avait fait un cabanon avec quand même un siège.
En bois.
On était entourés, on pouvait fermer la porte du cabanon, mais c'était déjà super, ça.
Il n'y avait pas d'odeur parce que ça prenait l'air de partout.
Oui.
C'était déjà une évolution.
Ah oui, puis on s'enfermait, on était quand même, c'était déjà plus agréable, ouais. Quoi. Beaucoup plus.
Ouais.
Tranquille, quoi.
En parlant français, on n'avait pas les fesses à l'air devant tout le monde.
Il n'y avait pas le papier toilette.
Non.
Papier journal à une époque. Alors quand on dit que l'imprimerie est malsaine, on n'a pas été plus malade pour ça. Donc, quand on se repense tout ça...
Hein. Peut-être que les journaux, ils étaient mieux faits. Hein.
Bon, c'est ce qu'on dit. L'encre a toujours été l'encre.
Ça irritait pas.
On avait la
peau dure. C'est bon.
Vous savez, on avait la vie dure, mais on n'avait pas de maladie de peau ni rien. Non, mais c'est vrai, ça vous fait rire. On a beaucoup apprécié le papier de toilette quand il est arrivé, croyez-moi.
Et tout à l'heure, vous disiez que vous n'aviez pas de salle de bain, mais vous faisiez votre toilette où ? Vous l'aviez où ?
Une bassine. Et quand on était petit, on était deux dans la même bassine.
Elle était où, la bassine, Madame Charbonnet ?
Dans la cuisine. Puis avant, il fallait faire chauffer l'eau.
Dans la marmite.
Dans la marmite.
Accrocher la cramaillère de la cheminée.
Mais oui, mais oui.
Et puis l'hiver, bah, quand on était tranquille, là, et qu'il n'était pas là, les parents, les enfants, on se mettait devant le feu de cheminée, on se lavait à la bassine. Il y a une sacrée évolution de ce côté-là. Hein.
On ne faisait pas une grande toilette tous les jours.
Vous l'avez connue en quelle année, l'arrivée de l'électricité ?
Ah, moi, j'ai toujours eu chez moi.
Ah.
À Chanvelot, on a eu la chance d'avoir les châtelains, les Deslauriers, là, dans le bourg. Et le monsieur d'Adcourt était très bien, avait une place à Paris très bien placée. Et c'est lui qui a fait arriver l'électricité. Moi, j'ai toujours connu.
Et vous avez quel âge ?
Je suis prête de prendre mes 89 ans. À la Jumelière, la campagne a eu l'électricité. Les derniers ont eu l'électricité en 1956. Donc, à 20 ans. Ceux qui étaient de ménage, il avait 20 ans. Il avait trois châteaux, mais ils n'ont pas été aidés comme nous, qu'on en avait un. Parce qu'il était très humain. Ils travaillaient, ces gens-là. Ils ne vivaient pas l'air du temps. Alors, donc, ils comprenaient les autres.
Et vous, Madame Charbonnel ?
Dans ces années-là...
56 ?
Oh non, avant. Entre 52 et 55.
Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez vu ça dans votre maison ?
Dans ma maison, c'est dans la maison des patrons plutôt, mais oui. Je ne me rappelle pas trop.
Mais vous savez, on avait par pièce une petite ampoule, pas de prise de courant à l'époque. Mais enfin, on avait de la lumière.
Avant, ah bon, c'était comment?
Ben, il avait, des bougies, des lampes à pétrole. Il y avait un verre et puis un gros vent où on mettait le pétrole. Il avait des lampes à carburant. Moi, je n'ai pas connu ça, mais ça existait. Ah, oui.
Le carburant était noyé, ben, la lampe était éteinte.
Alors, quand ça fumait, le verre était complètement noir. Alors, vous voyez, ça devait bien éclairer.
Ben oui, mais maintenant, tout le monde a la lumière.
Ben, heureusement.
Heureusement, oui.
Donc, on n'avait aucun appareil électrique puisqu'il n'y avait pas de prise de courant.
Mais comment vous faisiez avec la machine à laver?
Ah mais elle est arrivée beaucoup plus tard que ça.
Ouais, ça se tient.
C'est là qu'il faut nous suivre.
Oui,
Il fallait tourner la manivelle communale.
Il fallait tourner la manivelle communale. Puis ça brossait le linge.
Mais la machine à laver, il n'y avait pas besoin d'électricité.
Il n'y avait pas d'électricité.
Ouais, pas trop à côté de la plaque, quand même.
Il y avait pas d'électricité, mais il y avait une machine à laver.
Mais que vous tourniez à la main?
Il fallait tourner à la main.
Ah bah oui, mais
comme une baratte.
Moi, je ne l'ai pas connu, puisque nous, on avait l'électricité.
Comme une baratte.
Et vous disiez là, tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de voitures à l'époque, mais il y avait les voitures à chevaux.
Ah bah oui.
Ah bah oui.
Oui. Alors, il y avait la voiture qui avait pas de capote, si vous voulez, et puis celle qui avait des capotes. Nous, on avait les deux.
Ils faisaient comme les filles, c'était de l'eau de cendre. Il fallait faire bouillir de la cendre.
Ah, ça, c'était la blé.
Pour prendre le jus, pour faire de la lessive.
Oui, et la blé.
Il y avait pas de lessive.
Il y en a, il avait les draps, leurs draps, le gros linge une fois par an, il appelait ça faire la blé.
Ah bah oui,
il y avait l'histoire de cendre. Moi, j'ai pas connu ça. J'ai pas connu ça chez moi.
C'était pas comme ça.
C'était quoi, faire la blé?
Eh bien, il gardait leurs draps, leur gros linge pendant un an. Il était sale. Et au bout d'un an, il faisait des journées épouvantables à faire la buée. Donc, il y avait une histoire de cendre, moi, que je n'ai pas connue, quoi.
Il faisait bouillir la cendre pour prendre l'eau. Elle laissait déposer. Il prenait le jus, puis là, il lavait avec ça. Il y avait de la potasse, ça nettoyait le linge.
Alors, les années de guerre qu'on n'avait pas de savon dans le commerce, nos mères, elles faisaient le savon. Moi, je ne sais pas comment, vous rappelez-vous de ça?
Moi, j'en ai fait, du savon.
Ah bon, bah alors vous savez mieux que moi, parce que moi, je n'ai pas connu le fer, comme j'ai connu ma mère le fer.
C'était pas facile de s'en procurer. Il fallait faire bouillir ça dans un gros chaudron.
Mais oui, moi, je ne pourrais pas dire, c'était trop jeune.
Et après, on coupait des morceaux. Ça, c'était du savon.
C'est qu'on n'avait pas de lessive dans le commerce.
Ça moussait pas, mais ça nettoyait quand même.
Ah oui, elle a 5 ans de plus que moi, Madame Charbonnel. Eh bien, ça se paraît la différence déjà.
Ah oui, c'était ça.
Et ça, c'était pendant la guerre, Madame Charbonnel?
Oui,
quand il n'y avait pas le savon dans les commerces?
Oui. Ah bah non.
Mmh. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on avait comme savon pour faire notre toilette?
Bah, c'était ça ce qu'on faisait.
C'était ce savon-là.
Ah,
ça, je ne me rappelais plus, là.
Et le savon, il avait les cheveux comme il avait le reste. Puis pas de shampoing.
Non? Il n'y avait rien. Mon père cultivait des colzas pour faire de l'huile. On avait un hachemier, on appelait ça l'huilier. Il avait des machines pour broyer. Hein, vous rappelez de ça, là, pour le coup, vous. Hein, l'huile.
Ah bah l'huile, oui.
Hachemier, je me souviens, c'était Boutin l'huilier, on l'appelait, avec de la graine de colza. Bah, ça existe toujours, ça, la graine de colza existe toujours.
Pendant la guerre, il faisait du café avec de l'orge.
Alors,
avec de l'orge?
Bah oui, il faisait griller de l'orge, ça faisait du café.
Eh bien, puis vous avez dû
connaître... Bah, personne n'était énervé.
Madame Charbonnel, vous avez dû connaître... Ce qu'il appelait du café, c'était des gros grains, c'était quoi ça? C'était de la nourriture pour les bêtes?
Pas de l'orge?
Non, non, mais c'était des gros grains, du lupin.
Ah, le lupin, oui.
Et alors, il faisait griller ça, ça faisait du café. Et de l'orge aussi, qui était du café. Oh, ça devait pas être... Je me souviens plus, mais ça devait pas
être... Ça n'énervait pas. Hein.
Mais comme on n'en connaissait pas d'autres, café, est-ce qu'il n'y en avait pas?
Ah non, il y avait des tickets pour avoir du café, il y avait des tickets pour avoir du chocolat, il y avait des tickets pour boire quelque chose.
Pendant la guerre?
Bah oui.
Des tickets de rationnement?
Oui.
Bah, puis les tickets, il n'y en avait pas épais. Hein. Pour avoir une paire de chaussures, on allait à la mairie demander un
ticket. Les tickets de chocolat, celui qui n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de ticket.
Comment ça se passe?
Bah, ça s'est passé par la mairie.
Comme on disait, par exemple, je dis n'importe quoi, famille Charbonnel, elle aura 4 tickets de chocolat.
Celui qui avait des enfants.
Ah,
il avait droit.
Bah ça...
À 14 ans, il avait le droit.
Ah oui, bah moi, je n'ai pas souvenir de ça.
Puis les parents, s'ils avaient des sous pour acheter le chocolat,
ça paraît.
C'était bien, mais s'ils n'avaient pas de sous pour acheter le chocolat, l'étiquette était perdue.
Bah pour les chaussures, les parents allaient à la mairie demander quand ils pouvaient avoir des tickets pour acheter une paire de chaussures. Mais il fallait voir ce qu'étaient les chaussures à l'époque. La semelle de bois coupée, hein, pour rappeler. Bah. Ma soeur, elle a eu ça. Bon, c'était infernal hein, pour marcher.
Pas les chaussures de la pharmacie maintenant.
Non.
Et j'ai un souvenir quand le chocolat est revenu libre, qu'il y en avait dans le commerce. J'ai un souvenir inouï. Ça commençait, on avait des bâtons de chocolat à l'intérieur avec de la crème. Alors, j'allais à l'école, ma mère me dit, tu vas passer chez l'épicière, tu vas lui demander tant de bâtons de chocolat. Oui, je les ai bien demandés, mais le soir, il y en avait moins quand je suis arrivée. Pendant la route, il était bon. Ça, je me souviens de ça. Parce que j'ai dû prendre une rafale. Certainement, pour que je me rappelle, il y a une raison. J'ai pas dû y avoir droit pour être tous les autres de la maison. Alors, on a vécu des années certainement pas faciles. Hein.
Pendant la guerre ?
Bah oui, ah oui. Bah, les vêtements, c'était pareil. Hein. Nous encore, on a eu un tuyau par un oncle à l'armée qui avait connu un type anglais qui était marchand de tissus. Et je ne sais pas comment il se débrouillait, mais nous, on allait chez lui acheter nos tissus pour les manteaux hauts à Angers, rue Constant Lemoine. J'ai encore ce souvenir-là. C'était pas un magasin, c'était une maison privée. Et là, on ressortait avec des beaux tissus. Je ne sais pas comment il se débrouillait pour avoir du beau tissu comme ça. Puis après, y avait les couturières. Il y a des souvenirs qui restent. Mais tout le monde n'avait pas des filières.
Il fallait donner quelque chose pour avoir quelque chose.
Ah ben, on emportait des poulets pour les récompenser. En plus, on emportait des produits de la ferme pour les récompenser. Parce qu'ils en avaient grand besoin pour leur nourriture.
Pour le tissu.
Ben, on payait le tissu, mais en compensation, on leur donnait des produits de la ferme.
Madame Charbonnel, vous nous disiez qu'au moment de la guerre, il y avait beaucoup de troc. On donnait à qui pour avoir quoi ?
Ben, par exemple, si on voulait avoir du pain en supplément. Oui. Il donnait du blé ou il donnait des œufs.
Il y avait le droit de le faire ?
Il suffisait pas de faire prendre.
Il fallait pas trop le dire.
Ils avaient le droit de tout faire.
Oui. Parce que les Allemands venaient partout. Oui.
Et à la campagne, on n'a pas été les plus malheureux pour manger parce qu'à Valenjoux, il y avait un minotier. Hein Eh bien, mon père, il allait, voisin, portait des sacs de blé et rapportait du pain.
Oui, ben ça, c'est plus le minotier, c'était le boulanger, ça.
Ah, c'était... Ouais.
Il faisait les deux.
Il y en avait un qui broyait la farine. Il y avait deux, puis après, on allait chez le boulanger.
Non, c'était le même.
Ah, c'était le même. Ben oui, vous êtes de Valenjoux, mais je sais qu'il allait à Valenjoux, parce que c'était pas loin de chez nous.
Il y avait le boulanger, puis il y avait le minotier, puis c'était la même maison.
Ben, j'étais jeune, je me rappelle qu'il rapportait du pain. Voilà. Ça, je me souviens de ça.
Et où il y avait la minoterie, ça existe encore.
Et toujours.
Hein il était bon.
C'est utile, la différence là.
Il était bon, le pain.
Ah ben, le pain était bon, oui.
Oui, punaise, il était bon. Eh bien, on a eu du pain de maïs aussi c'était pendant la guerre.
Des baguettes, c'était des gros pains.
Oui.
Des gros pains de 6 livres, là. Il y avait une belle tartine comme ça.
Hein, vous avez connu le pain de maïs ?
Ça durcit, je ne sais pas.
Il était jaune, il était doré. Alors moi, je le trouvais bon parce que c'était la couleur. Mais les autres, ils ne le trouvaient pas bon chez moi. Qui était plus vieux, c'est bizarre ça.
Tant mieux pour vous, pour le coup.
Moi, c'était la couleur qui me... Alors il était bon parce qu'il était jaune.
Ah ben, il y avait du pain blanc et du pain gris. Hein.
Il y avait plus de gris que de blanc.
Ah, le gris, c'est parce qu'il y a blanc. Le blanc, c'est très cher.
C'est ça, c'était pour une farine pure.
Mais bon, tout ça, c'est du passé.
Tu peux faire une grande tartine comme ça.
Oui, le pain d'été.
Puis maintenant, tu peux aller à l'école, t'en manger.
Ça les fait rire, les jeunes.
On n'avait pas nos petites biscottes.
Vous n'aviez pas de biscottes ?
Ah, mais il n'y avait pas de biscottes dans le commerce.
Ça n'existait pas.
C'est un monde très différent maintenant.
Une bonne canne de pain.
Maintenant, on a des croissants pour manger.
Oui, et c'est bon.
Il n'y avait pas de super rue.
Oh non.
Il y avait la petite épicerie du village, même 4-5, même largement par pays.
Il y avait partout.
Je me demande, ils ne devaient pas avoir beaucoup de marchandises dans leurs rayons.
Madame Chion, vous êtes de Chanzeau.
Oui.
Et du coup, à l'époque, à Chanzeau, Il y avait combien d'épiceries ?
Rien que dans le bourg, il y en avait au minimum 5, et il y en avait dans les campagnes.
Est-ce que vous savez combien il y en a maintenant ?
Il n'y a rien du tout.
Facile à compter.
Ouais.
Gros zéro.
Et pour terminer, est-ce que vous auriez quelque chose à dire à votre vous du passé ?
Je ne sais pas. Vous me posez un lapin, là.
Est-ce qu'on est plus heureux ? Non.
Est-ce que vous êtes plus malheureux ?
On ne peut pas dire qu'on était malheureux, on n'était pas battu, rien.
Mmh. Il y avait une vie de famille.
On vivait comme nos voisins, qui étaient pareils que nous.
Donc en fait, vous diriez, on a évolué, mais on s'en est sorti.
On a évolué, pas nous.
Oui, c'est tout à fait.
C'est déjà ça.
Mais c'était, on avait une vie de famille. Avec les voisins, on était très amis aussi, il n'y a pas de souci. C'était une vie qui n'avait rien à voir avec maintenant, on ne peut pas tellement faire le contrepoids.
Du coup, la Georgette de maintenant a dit quoi à la Georgette d'avant ?
Eh bien, elle dit que ça l'a empêché de vivre. Mais enfin, la vie est quand même plus facile. On n'a pas eu la vie douce. Le travail était dur. Les journées étaient très longues. Alors, encore nous, on a eu des vélos assez jeunes. Mais toutes les familles n'avaient pas un vélo jeune. Mais je trouve que la vie est trop tumultueuse, mais je ne voudrais pas reculer quand même.
Ça paraît logique.
La vous d'aujourd'hui, elle aimerait dire quoi à la vous d'il y a 60 ans ?
Elle dirait que les gens aujourd'hui sont heureux par rapport à ceux de 60 ans. Ils n'imaginent pas ce que ça pouvait être.
Et ouais, voilà.
Pendant la guerre, c'était épouvantable.
À la ville, ils ont été plus malheureux que nous à la campagne.
J'étais jeune, je suis née en... J'avais 7 ans, même pas 7 ans, quand les Allemands sont arrivés en France.
C'est qu'on avait peur, hein ?
Ah oui, on avait peur.
Oh là 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 !
Non, c'est pas avec qui m'en fait plus peur. Vous allez rigoler, mais la première fois de ma vie que j'ai vu un noir, c'est un Américain qui venait en France battre les Allemands pour les renvoyer chez eux. J'en ai rêvé, mais je ne sais pas combien de nuits de ce noir.
Parce qu'en ville, il n'y avait pas de personnes de couleur ? Ça existait. Enfin,
non, c'est... ça n'existait pas. Ça n'existait pas.
Ça existait.
Ils sont autant diversité qu'aujourd'hui.
Voilà.
En fait, à la guerre, vous avez vu beaucoup de nationalités différentes.
Ah oui, oui, oui. Ils étaient là pour mettre les Allemands dehors.
D'accord.
À la gare d'Angers, on montait dans le Beaujois. Alors, on avait pris le train à la Jumelière. À Angers, ben, on s'est arrêté. Et puis après, on prenait le train pour le Beaujois. Et en gare d'Angers, il y avait les Allemands dans une salle, les Français dans l'autre. On les entendait. Je ne savais pas où me fourrer. J'avais la trouille au ventre. Et puis, quand on a été sur le quai pour aller prendre le train, je tenais la main à ma mère bien dure, parce que j'étais pas vieille, j'avais la trouille. Eh bien, il y a un Allemand qui a posé sa main, et puis ça, pour ma vie, je le verrai encore, qui a posé sa main sur mon épaule. Alors là, j'étais morte de peur. Et puis, il me parlait gentiment, mais gentiment. J'étais blonde, mais blonde. Eh bien, ma mère, elle a dit, tu sais, ce monsieur-là, il doit avoir une petite fille blonde comme toi. Il me parlait avec une amabilité que je le revois encore. Il n'était pas tous guerriers, hein. Il était obligé d'être là. Il nous faisait fourrer dans les troupes.
Hein. D'origine, parce que la majorité des Allemands sont blonds. Hein.
Ben justement,
plus maintenant,
j'étais vraiment très blonde.
Ah, blond, oui, très très blonde.
Très blonde. Alors, comme j'avais quel âge, moi, à cette époque-là, c'était encore la guerre, donc elle s'est déclarée en 39, je ne pouvais pas être bien vieille.
C'était le début de la guerre.
Eh bien, c'est un soldat, certainement, qui avait une petite fille blonde. Et qui devait être de la même grandeur que la mienne. Je me rappelle que ma mère me disait, tu sais, il doit revoir sa petite fille. Mmh. Et ce qui était vrai, au fond. Mais par contre, j'avais tellement peur que je revois encore le tableau. Hein.
C'est pas un climat très serein.
Non, pas du tout, pas du tout. Ah bon, on en avait peur. Et puis toutes les guerres, c'est une horreur, quoi. Que ce soit un pays ou un autre.
Merci d'avoir écouté Chuchotement, le podcast qui amplifie les voix qu'on n'entend pas. Nous tenons à remercier tous nos intervenants et intervenantes. Merci de nous avoir confié vos histoires, d'avoir partagé avec nous des fragments de vos vies. Vos voix sont au cœur de ce podcast et c'est un honneur de les amplifier. Un immense merci également à toutes les personnes qui ont rendu ce podcast possible. Merci à Romain et Cyril pour l'installation technique qui assure une qualité sonore impeccable. Merci à Astrid, compositrice de l'identité sonore qui accompagne nos récits. Merci à Maïssa, Anne, Astrid, Quentin, Malvina, Lucie et Faustine pour la préparation et l'animation des interviews. Merci à l'équipe du Centre social du Chemillois qui soutient et accompagne le projet. Continuez à prêter attention à ces murmures, à ces histoires humaines qui enrichissent notre compréhension du monde. Chaque voix compte, chaque témoignage a le pouvoir de transformer nos perceptions. Rejoignez-nous pour le prochain épisode où nous continuerons à donner la parole à ceux et celles qu'on n'écoute pas assez. En attendant, n'oubliez pas de partager ces histoires autour de vous, de faire entendre ces chuchotements au-delà de nos frontières. Merci pour votre écoute attentive et votre soutien. À très bientôt pour de nouvelles aventures humaines dans Chuchotements. Prenez soin de vous et ouvrez grand vos oreilles.